Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci d'être venu pour cette table ronde. Alors, il n'y a pas de modération, je prends la parole parce qu'en fait, c'est moi qui ai amené la clé USB. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont la clé USB, il y a ceux qui causent. Gilles.
N'empêche pas l'autre.
Allez, vas-y, Gilles, présente-toi.
Bonjour. Écoutez, moi, je suis au départ Gilles Francescano, donc illustrateur. De couverture essentiellement de SF, puisque c'était ce qui m'animait depuis tout petit et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et entre autres ici, commissaire d'expo en fait, depuis le début du festival, donc aux Utopiales. Et voilà, enfin au minimum quoi, je dirais. Après, bon, on va peut-être parler effectivement de l'influence des images, en tous les cas moi dans mon parcours par exemple, puisque je pense que c'est ce qui m'a fait prendre ce chemin.
Puisqu'il n'y a pas de modération, je me présente. Fabien Velman, scénariste de bande dessinée. Je serai la caution fanboy absolue de Mézières à cette table, parce que je suis un gros fan de son travail. Mais justement, on va avoir des débats intéressants là-dessus, sur la question de la patte graphique stricte ou de qu'est-ce qu'apporte un dessinateur. Et puis, petite parenthèse, merci à ceux et celles qui se sont déplacés un mardi matin. Je suis épaté qu'il y ait des gens, en fait. Donc merci aux courageux et courageuses qui sont là.
Olivier Cotte, alors au départ infographiste, etc. Scénariste de BD et sinon romancier, dramaturge, etc. Moi ça va être, en fait, comme je suis surtout aussi historien du cinéma d'animation, c'est la dimension des coupages qui m'intéresse beaucoup chez Mézières. Avec qui j'avais fait deux tables rondes aux Utopiales ces dernières années. Donc c'est voilà. Bon, ça m'aura un peu choqué. Est-ce que l'on peut mettre l'image du PC sur l'écran? Merci beaucoup. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va voir un certain nombre d'images, on va les feuilleter, il y en a quand même quelques-unes, et dès qu'il y en a une qui interpelle positivement ou négativement, on s'arrête et on en parle. Voilà.
Déjà, on commence par une couverture, et je crois que les couvertures faisaient partie des dessins que Jean-Claude Mézières mettait en couleur, ce qui n'est pas le cas de toutes les pages de bande dessinée. Donc, peut-être juste pour préciser cette petite chose, c'est qu'il y a une grande absente ici, c'est Evelyne Tranlet, qui est la sœur de Jean-Claude, qui aussi fait ses couleurs depuis, à mon sens, le début de la série Valérian. Et là, je fais un aparté de gauchiste, certains ne seront pas surpris ici, mais le rôle des coloristes dans la bande dessinée est quand même assez peu mis en avant. Donc, pour une fois que là, on connaît bien la coloriste, qu'elle fait ce travail depuis très longtemps, en plus, elle l'a fait avec des grands, et sur des séries assez impressionnantes. C'est quand même une coloriste qui a bossé sur Blueberry, sur Astérix. Enfin, je veux dire, bon, ça en jette un peu, quoi. Mais je crois que Jean-Claude s'arrogeait le droit de faire ses couvertures seul. Et je crois que c'est des couvertures en couleur directe, donc faites à la peinture. Et je pense que là, l'exemple que tu donnais le montrait. Bon, ben voilà, l'ami Jean-Claude qui nous a donc quitté il n'y a pas très très longtemps, hélas.
On remarque qu'il y a, pour les couvertures, il y a généralement des couleurs assez franches. Ça sent la gouache, quoi, au niveau technique, avec des contrastes colorés, des oppositions jaunes, bleues. Alors bon, là, c'est évident avec le titre, on en verra d'autres. Il y a cette école de l'illustration des années, des années 20 jusqu'aux années... on va dire 70, où vraiment on jouait vraiment sur des oppositions colorées. Et même à l'intérieur de la bande, on a aussi ça. On a assez souvent un éclairage jaune d'un côté et bleu de l'autre, par exemple pour les tableaux de bord, parce que ça permet finalement de bien mettre en valeur le volume et de donner un petit côté péchu sur une image qui finalement est petite, parce que ce n'est pas de l'image cinéma sur un écran de 15 mètres de base. Là, on est quand même sur une BD. Et même si Jean-Claude a fait tendance à faire souvent des des grandes cases panoramiques. Bon, ça lui arrivait aussi d'avoir 8-9 cases dans une seule planche, et là, il fallait que ça claque un peu en couleur pour donner de la lisibilité.
Je pense que le terme de lisibilité va revenir beaucoup, parce qu'en fait, versus peut-être le style, parce qu'on va parler de style graphique, et à certains égards, je ne sais pas à quel moment de la table ronde on évoquera ça, mais il y a des auteurs de cette époque ou maintenant qui ont un style qui est presque plus épatant que le style de Mézières. Et c'est vraiment pas ce que moi j'ai envie de défendre de Mézières. Ça sera peut-être pas la patte graphique au sens peut-être sidérant que peut avoir un Moebius ou hyper reconnaissable que peut avoir un Druyer. C'est autre chose. Et je pense que cette autre chose, ben, c'est peut-être que tu es en train d'aborder, c'est une lisibilité. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a des millions de qualités. Mais qui rendent son dessin peut-être pas si évident à reconnaître parmi plein, enfin, quand on le connaît bien sûr que oui, mais surtout qu'il y a d'une efficacité narrative folle. C'est pour ça aussi qu'en tant que scénariste, moi ça me parle beaucoup. Je pense que c'est aussi un dessinateur qui m'a nourri en tant que scénariste, c'est quand même un peu paradoxal. Et autre précision, j'y pense en revoyant les couvertures ici, on notera aussi, donc je continue avec mes différents combats, on voit que ça s'appelle Valérian et Laureline. En titre, ça je pense que c'est arrivé en cours de route, parce que je crois qu'au départ ça ne s'appelait que Valérian.
Mais en fait le truc c'est que historiquement Laureline était un personnage secondaire qui ne devait pas rester dans la bande, et puis finalement elle a pris de l'importance. Ils se sont aperçus qu'elle prenait part aux aventures, et le titre malheureusement Valérian avait été choisi, déterminé au départ, puisqu'il devait être le seul protagoniste, et du coup ils n'ont pas pu le changer avant un certain temps.
Alors même que, alors je ne sais pas si c'est votre cas ici, hein, mais moi le personnage de Laureline était une des portes d'accès principales de cette série en tant qu'adolescent, même enfant, hein, j'ai découvert ça, je pense que j'avais 8 ans à peu près, parce que ma famille était lectrice de bande dessinée, ce qui était une chance dans les années 70-80. Ce n'était pas toujours le cas de toutes les familles. Et alors, pour la petite histoire, j'ai deux sœurs, une mère, donc j'allais dire qu'il y a un côté surnuméraire de la présence féminine dans ma famille. Et quelque part, je me disais, voilà un personnage de BD qui ressemble à, pas physiquement, mais qui ressemble à mes sœurs dans son caractère, quoi, qui vit. Qui n'est pas juste Natacha, hôtesse de l'air, pour le dire vite, que, au demeurant, sur lequel je ne vais pas dober parce que je ne connais pas cette BD. C'est peut-être bien, c'est peut-être plus féministe que je le crois, mais je n'avais pas envie de la lire parce que j'avais l'impression que sur la couverture, c'était une bimbo qui servait des verres à l'intérieur d'un Boeing. Enfin bon, je ne sais pas, ce n'était pas mon imaginaire, quoi. J'imagine que Natacha, hôtesse de l'air, est mieux que ça. Je suis vraiment désolé s'il y a des fans. Mais Laureline, dans le cas de Valérian, de la série Valérian et Laureline, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que non seulement elle est très importante dans la série, puisqu'on parle de Jean-Claude, elle est extrêmement bien incarnée, elle est extrêmement bien dessinée. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, elle est plutôt jolie, mais sa façon de bouger, sa façon de... Je parlerai d'acting si j'emploie quelques anglicismes. Sa façon d'être animée, mise en scène, parce que Jean-Claude précisait vraiment que lui, il était le metteur en scène de ses bandes dessinées. Donc quelque part, ici, c'était le directeur d'acteur. Elle était bien interprétée. Et honnêtement, dans la bande dessinée franco-belge, c'était assez rare qu'un personnage féminin soit bien interprété. Déjà, il fallait qu'il soit bien dessiné. Ensuite, il fallait qu'il ne soit pas que stéréotypé sexy ou stéréotypé castafiore, pour le dire vite. Hein. Il y avait un peu les personnages de femmes rigolotes et les personnages de femmes sexy. Et Laureline, elle est drôle et sexy, mais en même temps, elle n'est pas que ça. Elle est humaine, elle est touchante, etc.
Et puis, elle remet Valérian en place quand il déconne. Et
exactement. Alors, non seulement elle est plus importante dans la série, mais Valérian, je me suis replongé du coup dans les albums avant de venir ici, il est souvent ultra ridicule, en fait. C'est une sorte de cow-boy, quoi. Il essaie de faire le mec.
Il est plus gamin qu'elle.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les deux s'appellent Petit ou Petite. Ma petite, elle dit mon petit Valérian. Ça, c'est touchant.
Là, on a, avec cette couverture, comme on avait avec celle-là, un truc que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup aimé chez Mézières, qui est en fait qu'il y a il y a de l'espace. Alors, je ne parle pas de space-op là-dessus, mais en fait, il y a de la profondeur d'image. C'est-à-dire que là, par exemple, il aurait très bien pu mettre les trois scooters sur le même plan. Non, non, il va les décaler de manière à ce que, bon, déjà, on les voit tous les trois, donc il les décale sur l'horizontale, mais c'est surtout qu'il va mettre une profondeur parce qu'il va y en avoir un qui va être plus en avant-plan que l'autre. Et là, on a la même chose, on a un point de fuite très clair. En bas, j'ai le curseur, donc okay, le point de fuite, il va être à peu près ici. Ça se voit là, ouais, c'est ça. Bon, il va être à peu près là. On a un plan là qui arrive, plus la grande masse noire qui vient vers nous. Alors là encore, on retrouve l'opposition complémentaire jaune-bleu dont je parlais avec les immeubles à droite. Mais ça, ce truc d'espace, on le trouve assez régulièrement. Et notamment, ce qui m'a toujours branché, c'est à l'intérieur des vaisseaux. Généralement, on a toujours un côté un peu sous-marin, finalement, dans un vaisseau, parce que c'est de l'espace réduit dans les cabines de pilotage, etc. Donc, il faut qu'on continue quand même de voir que ça s'étend au-delà du cadre. Quelque part. Et du coup, il a toujours joué sur des... En fait, j'aime pas trop cette expression, parce que c'est pas du cinéma, encore que chez Jean-Claude, qui voulait être réalisateur, ça pourrait être intéressant de le développer, mais il y a des positions de caméra qui sont astucieusement choisies, de manière à ce que l'on sente qu'on a des avant-plans, des plans moyens, et puis de l'arrière-plan dans la case.
Alors, je rebondis sur la case d'avant.
Hop. Non mais peut-être qu'on peut en trouver d'autres.
Tu peux aussi en placer une si tu veux.
Non mais j'aimerais. Ouais, disons, j'attendais un peu le défilement des.
Un thème que j'aborderai peut-être pas ici, mais juste pour y penser, c'est que toi tu parles de. Il y a de l'espace dans la couverture dans un sens presque plus cinématographique de cadrage et du coup c'est hyper intéressant parce que moi je réfléchis peu comme ça. Moi, ce qui me frappe et que je trouve très 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 présent dans le dessin de Mézières en général, c'est que c'est le contraste entre de l'espace au sens littéral et science-fiction du terme et un premier plan qui est complètement désuet, qui est visiblement d'une autre époque. Et donc, on est dans un contraste total. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que l'avant-plan et le deuxième plan, on est dans une espèce de 19e. Okay. D'un seul coup, l'arrière-plan nous emmène dans l'espace. Ce contraste, il est complètement hallucinant. Il y a le titre par-dessus, les terres truquées. Pour moi, c'est une super bonne couverture parce qu'on est déjà pris dans une histoire. Un grand théoricien du récit avait dit vous me racontez l'histoire d'un chat assis sur un tapis, c'est pas une histoire. Le chat assis sur le tapis d'un chien, c'est une histoire. Parce qu'il y a un début de tension. On se dit, ah oui, si c'est le tapis d'un chien, peut-être que... Ben là, pour moi, il y a déjà une tension qui n'est pas celle d'une narration précise. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Par contre, je sais que ça ne va pas, que quelque chose n'est pas dans son état normal. Et ce truc-là, pour moi, c'est très, très, très typique du travail de Mézières. Bon, du travail de Mézières et Christin, bien sûr, on les citera toujours un peu ensemble.
Oui, parce qu'en fait, les titres, déjà, sont systématiquement évocateurs d'une étrangeté.
Oui, complètement. C'est assez génial.
Sur les terres truquées, bon, enfin, le pays sans étoiles, enfin, les titres sont hallucinants.
Donc peut-être tu voulais dire quelque chose dans
non,
notre
envolée lyrique. Je vous laisse parler du texte.
C'est de la merde,
mais
vas-y.
Moi, cette couverture, elle est vraiment représentative de ce que j'aime chez Mézières et en même temps de ce qui ne m'a pas touché. On verra un petit peu plus tard. En fait, c'est les compositions et la mise en abîme ou la mise en présentation, disons, du paysage de science-fiction. Quoi, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a attiré vraiment. Je l'ai vu lors de la mise en place, par exemple, de l'exposition qu'on a fait ici il y a quelques années. Moi, c'était vraiment ce qui m'a attiré, c'était pas les planches, quoi, en fait. C'était les images. Et donc, je vous laisse la narration, il n'y a pas de problème, même si j'aurais peut-être des petites bricolailles à dire là-dessus.
Donc la fameuse dualité dont on parlait, qui est, pour moi, qui fait la série, hein, on est d'accord qu'il ne peut pas y avoir Valérian sans Laureline et inversement. Ben, encore une présence de l'espace. Et encore, bon, alors, c'est un peu une tarte à la crème quand on parle de Mézières, mais enfin, je pense que c'est toujours quand même bien de le dire. On sait maintenant quand même qu'il a été multipompé. Et entre autres, quand on voit des images comme celle-là, on sent bien à quel point Star Wars lui doit beaucoup. Alors, maintenant, ça se sait. Maintenant, c'est plus vraiment une nouveauté. On va pas faire un scoop là-dessus, mais à certains égards, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je voyais ça enfant, je pensais que c'était pas la même chose, mais c'était le même univers. Je me disais, je jouais Star Wars au cinéma un peu après. C'est un peu comme Valérian, mais j'avais l'impression que tout le monde faisait de la SF comme ça. Ça me paraissait être une parenté, en fait, un cousinage assez normal. Alors que je pense que Mézières a apporté quelque chose qui était assez énorme. Alors là, pour le coup, je manque peut-être de recul sur ce qui se faisait en science-fiction à l'époque. Mais moi, ce qui m'a frappé, et graphiquement, qui continue à me frapper, j'en reviens au mélange, c'est ce mélange presque techno-tribal, quoi. Il y a de l'espace. Là, on ne voit même pas de vaisseau spatial, je ne crois pas. Sur la couverture. Par contre, on sait que c'est Valérian, il y a quand même les 1000 planètes, il y a l'ouverture vers le ciel et l'espace, une fois de plus, hein, qui est un peu la marque de fabrique. Mais à l'avant, ça ressemblerait tout à fait à de l'heroic fantasy.
Absolument. Après, il y aura une image justement comparative entre l'univers de Valérian et celui de Star Wars.
Oui, il avait mis ça dans l'exposition, il avait fait le montage, mais il y a un aspect baroque qu'on ne retrouvait pas à l'époque, effectivement, chez d'autres créateurs.
Oui, tout à fait. Alors, bon, pour aller un peu dans le sens aussi de dire que c'est pas, enfin, attention, je vais prendre beaucoup de précautions à dire ça, que c'est pas le meilleur des dessinateurs du monde. C'est-à-dire que graphiquement parlant, spécifiquement parlant, un Moebius fera les visages, par exemple, très différemment. Et là, par exemple, c'est pas les meilleures façons de faire Laureline et Valérian de Maizière, ce qui est quand même, enfin, c'est complètement fou de dire ça. C'est genre, je dis au mec qui l'a fait, tu fais pas aussi bien que tu devrais le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que la stricte tenue des visages, par exemple, de ces personnages, avait moins d'importance que l'émotion qu'ils voulaient dégager. Ce qui fait qu'il y a des cases, quand parfois on s'attarde dessus, qui sont plus ou moins bien tenues. Par contre, la lisibilité est tenue tout le temps, tout le temps. La mise en scène est tenue tout le temps. Et j'y reviendrai plus tard. L'inventivité, elle est hallucinante. Mais je crois que des fois, à limite, que le personnage, l'avant-plan, l'arrière-plan, enfin, la façon dont le visage est fait, est-ce que c'est complètement Valérian ? Non, pas toujours. Il en parlait presque comme ça, d'ailleurs, parce que j'avais assisté, je crois, à une discussion de Mathieu Bonhomme avec Maizière. Il disait, ben voilà, quand on veut faire du réalisme ou semi-réalisme, on va parler de ça, parce qu'ici, on est un peu entre les deux, il faut accepter l'idée que si on tente un plan compliqué, genre une contre-plongée dans le brouillard du personnage, ben le personnage, il ne va pas être tenu exactement, on n'est pas des machines. Les dessinateurs ne sont pas des machines. Il se trouve que maintenant, il y a des machines qui vont dessiner, et ça, c'est un autre débat hyper flippant, et qu'ils le feront mieux quelque part, qu'ils dessineront de manière parfaite, qu'ils modéliseront. Mais ici, de fait, et c'est toute la poésie du dessin, c'est que ce n'est pas obligé d'être... C'est à la fois virtuose, bien entendu, je suis incapable de dessiner comme ça. Donc on entend bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mal dessiné. Simplement, il se permet de dire, voilà l'esprit de ce qu'est Laureline, voilà l'esprit de ce qu'est Valérian, et on comprend. On n'a pas besoin de se dire, ils sont toujours pile poil en place. Je me rappelle par exemple d'une case qui m'avait marqué enfant aussi, où je me dis, tiens, c'est Laureline, alors je ne sais plus le nom de l'album, mais elle se maquille en limite en prostituée, quoi. C'est pour faire s'opposer deux extraterrestres qui vont s'entretuer. C'est dans les derniers cycles, quelque part vers Châtelet, les spectres d'Inverloch, quelque chose comme ça. Et elle se déguise vraiment, elle se je ne sais pas comment le dire autrement, enfin, elle ressemble vraiment à une espèce d'aguicheuse, quoi. Et il y a un plan où on la reconnaît presque plus du tout. Et moi, je me disais, c'est marrant, c'est pas elle, quoi. C'est pas elle, mais je sais qu'il est en train de nous dire, c'est elle maquillée d'une manière qui fait que c'est plus elle. Voilà. Quelque chose de cet ordre-là.
Et tu peux... L'incohérence du dessin sert le récit, quoi.
Dans le cas présent, il se trouve que oui.
Le récit.
Oui, c'est d'abord le récit, de toute façon.
Mais pour revenir, entre guillemets, au style, j'avais entendu une phrase, normalement, je crois qu'elle est bien tardie, que j'avais trouvé très intéressante. Il disait que le style, j'en ai déjà parlé dans une autre table ronde là cette année, mais parce que vraiment ça me paraît très très important. Le style, c'est la somme de toutes les bidouilles, tous les trucs que l'on a trouvé pour éviter de, par exemple, de dessiner là où on pêche, là où ça fonctionne pas. C'est-à-dire que, bon, par exemple, je crois que Tardy, en fait, savait très très bien de quoi il parlait. Tardy, il est pas très bon au niveau anatomie. Bon, dessiner des bouches ouvertes, c'est l'enfer, donc elles sont toujours fermées. Dessiner des yeux, c'est l'enfer, donc c'est très très souvent réduit à des fentes. L'anatomie fonctionne pas, c'est pas grave, on fout des gros manteaux. Mais du coup, on reconnaît que c'est du. Non, mais tu vois. Mais on reconnaît que c'est du Tardy, et il en a fait quelque chose d'unique et de formidable. Donc c'est par les faiblesses et les moyens de détourner ces faiblesses que l'on construit involontairement, évidemment, et progressivement un style graphique. Je crois honnêtement que pour Maizière, c'est pareil. Je me rappelle que quand j'avais une vingtaine d'années, c'était l'époque où il y avait Métro Châtelet qui était sorti, et on regardait la bande, et puis à un moment, il y a une case où il y a deux mains sur un pare-brise, une vitre de portière un peu baissée. Et on était en train de se dire, putain, les doigts, ils chient. Et c'est pas grave, parce qu'il y avait une très bonne intention dans la case, et on sentait bien que, bah oui, l'exactitude biologique des personnages, quoi. C'était pas le truc de Maizière, mais c'est pas grave parce que en fait tout le reste était en place, et finalement, comme c'était bien travaillé, c'était bien détourné, ça rajoutait quelque chose, ça faisait que c'était du Maizière, et du coup ça fonctionnait.
Ce que tu dis sur le style, c'est vraiment quelque chose auquel moi sur lequel je m'attarde quand je parle à des jeunes auteurs, jeunes autrices dans des écoles, quand il m'arrive de donner des cours, faire des masterclass, c'est que je me rends compte que de la même manière que je l'ai fait quand j'ai débuté, on confond trouver son style avec pomper le style d'un autre, en fait. Parce que comme on ne sait pas ce que c'est que son style, comme c'est quelque chose de très flou, en général, on se dit, je vais voir qui en a, qui semble en avoir. Et ceux qui en ont, ceux dont on dit qu'ils en ont, c'est que c'est parce que c'est très sensible, ça percute tout de suite. Moebius a un style, Druyer a un style, Mignola avec Hellboy, c'est un style, c'est reconnaissable entre mille. Et du coup, même Tardi, effectivement, même si c'est pour cacher ses limites. Et donc, on a tendance au début, en se lançant, à se dire, je vais faire un truc en m'inspirant de ces grands maîtres. Et puis, bon, d'ailleurs, ça n'empêche pas de s'en défaire. Giraud, quand il a commencé, il faisait du JG, mais il s'en est défait très vite. Mais du coup, le risque, c'est de se dire, chercher son style, pour moi, c'est pas la bonne manière de faire. C'est plutôt se dire, je veux chercher à raconter ce qui m'est le plus personnel avec les outils que j'ai. Et petit à petit, quelque chose apparaît qui s'avère être un style, une musique.
Ouais, comme dit Olivier, moi, je trouve, le style, c'est le fil rouge qui apparaît entre les défauts, voilà. Et puis ce qu'il en reste sur la planche. Quoi,
c'est ce qu'il reste, oui, c'est ça.
C'est une des premières planches de Mézières. Alors, évidemment, ce n'est pas du Valérian. C'est qu'avant d'arriver à Valérian, il avait d'abord fait un certain nombre. Il était aux États-Unis et il était en France en même temps. C'est les premières collaborations avec Goscinny aussi. Il était inspiré par, comme beaucoup de dessinateurs de l'époque, par en fait tout le travail d'Harvey Kurtzman avec Mad, etc.
Mad, oui, c'est ça, le magazine Mad.
Et il a fait des strips humoristiques. Il a fait des contes assez bavards de ce type-là et dans un style qui n'était pas encore le sien.
Ça m'amène à une question qui était celle de l'humour, parce qu'on l'a abordé avant la table ronde. C'est vrai que les débuts graphiques de Mézières tendent plus vers quelque chose de si ce n'est semi-réaliste, presque humoristique. Et il allait vers quelque chose qui était semi-réaliste, tendance réaliste, plutôt un peu de l'autre côté. C'est vrai qu'au début, moi, là tu me parles de Mad et ça me parle assez, mais au début je n'arrivais pas à trouver vraiment les sources d'inspiration de Mézières. Je reconnais que pour le coup le mélange, je trouve qu'il se fait de manière tellement folle qu'on ne sait plus exactement d'où ça vient, au point que maintenant c'est quand même, quand on voit des planches comme ça, c'est du pur Mézières, personne ne peut faire ça, et de fait il a peu été pompé. Voilà, typiquement, c'est là, je reviens à cette notion-là, c'est difficile à pomper parce qu'il n'est pas allé vers cette espèce d'hyper-virtuosité qui va vraiment d'un seul coup flatter le regard d'un jeune dessinateur, d'une jeune dessinatrice. Mais l'hyper-lisibilité, c'est une autre virtuosité. Simplement, elle est moins immédiatement sensible. Je reviens un peu là-dessus.
Il y a une autre personne à peu près de la même génération en France qui, là aussi, alors là, avait beaucoup plus de virtuosité technique, mais qui était tellement personnelle que c'est impossible à pomper, c'est Forrest.
Oui. Qui était quand même très très doué aussi. Hein.
Mais lui, en dessin, ou la vache, et notamment en ancrage.
Oui. Et alors, tu nous disais avant que toi, la notion d'humour avec la science-fiction, c'était limite, c'était la glace et le feu, quoi.
Un petit peu. En fait, déjà, moi, je trouvais qu'il y avait effectivement la proximité quand même avec Giraud, Moebius et tout ce type de graphisme, en fait. Mais effectivement, qui se détache petit à petit par presque une simplification, alors que de notre côté, un Giraud, ça peut être au contraire la surabondance dans le. Mais effectivement, Mézières, moi, ce qui m'a toujours, c'est pour ça que je parlais des compositions et des paysages, parce que ça, il n'y a pas de problème. Enfin, pour moi, en tous les cas, en termes d'illustrateur de SF, d'architecture, d'imagination, d'espace, d'espace en termes de lieu, Mézières est vraiment une référence. Mais effectivement, il y a un truc qui m'a toujours fait rester à l'extérieur, c'était l'humour, en fait.
Alors, qu'est-ce qui fait que pour ça, l'humour n'est pas complètement compatible?
Alors, je le vois bien dans toutes les œuvres que je peux lire ou que je peux regarder, pas dessiner, puisque du coup, je m'en empêche. L'humour, pour moi, prend systématiquement le pas sur ce que je vais trouver dans le récit, si c'est un récit de science-fiction mélangeant humour et science-fiction. Et du coup, je sais que si je rentre dans un univers tel que celui de Mézières ou un Frédéric Brand ou des tas d'autres auteurs qui travaillent sur cette ligne, disons, de l'humour dans un espace de science-fiction, bah, j'aurais juste voyagé dans une œuvre d'humour, quoi, en fait.
Mais c'est uniquement pour la SF ou ça?
Non, c'est uniquement pour la SF. Uniquement pour la SF parce que, après, j'en sais rien. Il faudrait que je m'allonge pendant 2 heures et rester sur les canapés rouges.
Ils sont là pour ça, il y en a beaucoup.
C'est vraiment l'importance que j'accorde à la science-fiction. Je dirais pas passe au-delà de tout, mais quand même pas mal, quoi. Et c'est vrai que pour moi, il est bien plus important quand je lis une œuvre de science-fiction ou quand je regarde un album ou un film ou autre. C'est vraiment l'aspect anticipatif, tu vois, le sérieux de la science-fiction, tel qu'on le voit par exemple aux Utopiales sur certains débats, et pas l'humour, quoi. Quand
2001,
quand j'ai envie de me marrer, je prends autre chose.
2001 me fait beaucoup rire, hein, mais
par exemple.
Alors c'est marrant parce qu'on a eu un débat.
Et du coup, ça me tient éloigné du truc.
On a eu un débat pas si différent dans la conférence de l'érotisme à la pornographie, qui va nous changer d'univers immédiatement. Et des personnes pendant le débat disaient: est-ce que l'humour est compatible avec l'érotisme? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est cassé quand on essaie de faire genre cholet marron, et puis d'un seul coup, si je dis vraiment cholet marron, en vrai, je suis déjà à côté de la plaque parce que c'est drôle. Mais imagine, j'essaie d'être vraiment super érotique, super chaud, puis je fais un gag, quoi, qui casserait un peu. C'est comme si ça cassait le mood dans lequel on est. Et une des réponses qui était apportée, et j'ai un peu la même sensation, et je reviens au dessin de Mézières, c'est que c'est énormément une question de dosage. Et que dans le cas de Mézières, il a commencé par du vraiment cartoon, et la toute première histoire de Valérian, que d'ailleurs, moi, je ne connaissais pas avant la réédition des intégrales. Elle n'est pas très intéressante, graphiquement. Et à partir du premier album qui se passe à New York, donc le nom va m'échapper, mais vous allez peut-être me le retrouver, c'est le tout premier album de Valérian, donc dans un New York dévasté par une catastrophe. Il a commencé déjà à tendre vers un peu plus de réalisme, et il y a une part de cartoon qui est encore là quand même. Donc pour moi, le dosage s'équilibre. Et l'humour ne l'emporte pas sur le reste, parce que je suis d'accord que si ça avait été trop dans un dessin qui fait penser à du Astérix, par exemple, je m'attends à un récit purement humoristique. Alors que le récit de Christin, il est ironique. Il n'est pas franchement humoristique. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Christin, et aussi du coup chez Mézières, c'est qu'on sent qu'ils aiment leurs personnages. Et que même quand ils sont ridicules, ils les ramassent, quoi. Il y a même un grand méchant, à un moment donné, se retrouve explosé dans l'espace. On sent qu'il y a une petite tristesse pour le grand méchant. Les noms utilisés par Christin sont parfois proches de la parodie. Glomule ou Ximax, enfin des trucs comme ça, ça fait vraiment, ça fait un peu.
Sans compter les références du type Molto Coltese.
Oui, c'est ça. Ça ne bascule pas dans la parodie, ça ne bascule pas dans l'humour franc et massif qu'aurait par exemple un Douglas Adams ou un Frederick Brown en science-fiction. C'est ténu, mais là où je peux te comprendre, c'est que pour moi, s'il y a trop d'humour, à un moment donné, je risque de plus croire au récit. C'est d'une manière générale, en fait. C'est que si tout est prétexte à gag, alors les personnages n'ont plus d'importance, alors l'intrigue n'a plus d'importance.
Ouais, moi, ça allait jusqu'au dessin. Alors, pas forcément sur les personnages principaux, tu vois, mais bien sûr que l'abondance de la flore et de la faune développée par Mézières, elle est quand même innombrable, et que effectivement, le bestiaire vaut des études à lui seul, quoi, en fait. Mais sur le graphisme, peut-être que du coup, là, c'est l'héritage du dessin gros nez, quoi, en fait. Et là, des fois, je me disais, putain, non, quand même, le truc, là, il a pas de gueule, quoi.
Là-dessus, il y a quelque chose que... Alors là on voit bien, effectivement, bon, si on prend les proportions, la tête de Reline est un peu trop grande, etc., etc. Mais, par contre, il y a quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé chez Mézières, c'est qu'en fait c'est l'ancrage. C'est-à-dire l'ancrage au pinceau qui est simple, qui amène déjà de la couleur avec, par exemple, des zones, on le voit sur l'épaule, avec des zones noires, comme si en fait on avait un éclairage par l'avant et un autre par l'arrière, ce qui fait une zone d'ombre au milieu, plus d'ailleurs une haute lumière à l'arrière. Et ça, bon, ça c'est la couleur, mais il y a une nervosité. C'est toujours très difficile. En fait, l'ancrage, c'est vachement compliqué, parce que bon, il faut avoir trouvé son pinceau et puis savoir très très bien le manier et savoir après comment manier aussi la lame de rasoir pour corriger sur le papier. Et Mézières est assez bon là-dessus. Il a la nervosité de traits qui fonctionne bien avec ce cette technique-là. Je pense que toi, tu vas pouvoir en parler plus facilement.
Bah, là, je trouve qu'on a un très bon exemple, justement, du fait que Mézières s'en fout un peu, de comme tu le disais, ce n'est pas les proportions exactes. Cette image, au demeurant, elle serait lisible même en noir et blanc, parce que tu as raison de le dire, l'ancrage est là. On voit que les petites hachures tout autour du cam unique, heureusement que c'est redit, hein, parce que moi, je n'ai aucune mémoire déjà, mais alors dans Valérian, c'est encore pire. Permet de voir qu'il y a effectivement une mise en valeur. Et en fait, les petits traits, vers où ils vont vers l'Auroline. Donc, en fait, qu'est-ce que ça met en avant, cette image? C'est le courage de cette petite bonne femme qui est face à un type qui fait deux fois sa taille, au sens littéral du terme. Cette scène, elle est très drôle par la suite, parce que donc l'Auroline est là. Alors, elle est en train de se battre pour retrouver son homme, hein, ce qui arrive quand même assez régulièrement dans la série, parce que le pauvre Valérian, à chaque fois, il s'en prend plein la gueule, puis il est plutôt le jouet des événements. Donc là, elle est en train de courir après lui, d'essayer de le retrouver. Et elle doit passer par ce peuple, qui est un peuple, pour le dire très rapidement, c'est un peu un mélange entre des Tartares et des Vikings, encore plus virils, quoi. Et donc leur rite d'arriver pour l'accueillir, c'est qu'ils vont jouer à une espèce de jeu très violent, comme vous connaissez peut-être ça dans des peuplades lointaines, style Kazakhstan éloigné, les parties lointaines du Kazakhstan, où ils se balancent un agneau entre types qui cavalent à cheval, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de jeu extrêmement joyeux. C'est un agneau mort. Mais enfin, et là, ils vont faire ça avec l'Auroline vivante. C'est-à-dire qu'ils font un jeu où ils se balancent l'Auroline les uns aux autres comme une sorte de jeu de football, quoi. Et elle est balancée dans tous les sens, mais elle garde une forme de dignité, tout en disant quand même à la fin, j'en ai un peu ras la casquette. N'empêche qu'elle est là, quoi, et elle y va. Et là, par exemple, le fait que la tête soit un peu plus grosse, je pense qu'il voulait qu'on voit quand même bien le découpage de son visage. Et le fait qu'elle se tient hyper droite, la posture est beaucoup plus importante en fait que les proportions. Mmh. Elle se tient hyper droite face à lui et elle l'affronte, quoi. Elle y va. Donc là, je trouve qu'on a un assez beau résumé du talent inouï quand même de Mézières pour ça. Ça, c'est des personnages assez drôles. Hein. C'est des Shingus, je crois. Enfin, ouais. Je peux me tromper, mais qui sont vraiment des crapules de l'espace. Aussi, une scène qui me vient en parlant de mélange d'humour et en même temps de... Quand c'est bien fait, une petite dose d'humour, c'est tellement bien. Les Shingus, donc, sont un peu tout ce qu'on peut imaginer de pire dans un commerce illicite. Ils font des chantages, ils achètent tout ce qu'ils peuvent acheter. Et il y a une scène où ils viennent voir un haut dignitaire d'une planète et qui les prend de haut, quoi. Donc il a vraiment une posture, il est extrêmement en hauteur comme ça. Et il lui montre un scanner en lui disant là, en fait, on a ce scanner que tu ne connaissais pas, mais nous, on l'a, où on voit que tu as la maladie de machin, qui est une maladie qui va faire que d'ici 10 minutes, il y a des robots qui vont venir te tuer parce que sinon, tu seras contagieux. Et le type se rétracte sur lui-même, mais presque comme une poule. C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'il fait genre, il se baisse à l'intérieur de son cou. Cette scène, elle est hilarante, mais elle n'est pas pour moi parodique. C'est purement quelque chose de l'ordre de l'acting. C'est vraiment, il arrive à me faire rire avec un extraterrestre qui est en train de faire genre gloop et qui va bien sûr payer un max les Shingus pour pouvoir échapper à ce qu'il attend. Ah bah tiens, bah voilà le moment où je disais qu'elle se déguisait en prostitute. Là, on est d'accord que c'est pas la Laureline qu'on connaît. Là. Cela dit, ça a fait fantasmer des générations d'adolescents, hein, cette séquence, bien entendu. Alors qu'en fait, elle ne se déguise comme ça que pour attiser le désir de deux types qui vont s'entretuer pour elle. D'ailleurs, ça marche très bien.
Et ce qui est marrant, c'est que le style est beaucoup plus réaliste là.
Ben voilà, c'est pour ça que je me disais, c'est pas vraiment Laureline parce que ça paraît presque trop réaliste. Et en même temps, tu le disais, c'est parce que la narration aussi le veut.
En plus, comme il y a un côté très Amérique années 40, on flirte du côté de Kniff. Enfin, il y a pas en termes de lumière, mais en termes de signifiant dans l'image.
Et ça montre au passage aussi qu'il y a quand même pas mal de morts dans Valérian et Laureline. On le ressent peu parce que le ton est plutôt tendre dans l'absolu. Mais là, les deux types s'explosent la tête à coups de laser. Ils sont pas, c'est pas une vue de l'esprit.
Alors, il y a un autre point dans les Valérians qui m'a toujours étonné, c'est que quelquefois, ça peut être extrêmement bavard. Et alors ça, pour un dessinateur de BD, c'est un peu la plaie parce que la bulle, ça prend de la place. Et c'est autant qu'on ne dessine pas. Et en plus, ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps sur la case, que pendant ce temps-là, on ne peut pas vraiment faire bouger non plus les personnages parce qu'ils ne peuvent pas à la fois déclamer des tirades et courir ou se battre ou n'importe quoi. Ça, c'est la plaie. Il y a quelques planches qui sont difficiles, c'est-à-dire sur lesquelles on tourne la page et on se dit « Ah, merde, là, je vais passer deux minutes parce qu'il y a des
cartouches. » En tant que professionnel, est-ce que tu aurais l'impression que ce type de planche, par exemple, pourrait exister aujourd'hui, en fait ? Parce que moi, quand je vois cette planche, effectivement, bon, je ne m'étais pas reposé la question des noirs et blancs, tu vois, de Mézières depuis un petit moment. Et en plus, comme tu dis, un peu le verbiage, là, là on est arrêté dans la temporalité de la lecture, quoi, et dans l'histoire. Enfin, bon, ça permet de se dire qu'effectivement, les récits sont, je dirais, sur des années-lumière. Donc ça fonctionne bien. Mais est-ce que ce n'est pas aussi emblématique d'une époque, en fait ? Enfin, aujourd'hui, oui, j'en sais rien,
oui,
tu vois.
Oui, parce que... tout à fait. Ça, je ne pense pas qu'on le ferait. Et en tout cas, si je proposais ça, enfin, au niveau scénaristique, à mon avis, mon éditeur me tomberait dessus avant même le dessinateur.
Ah, parce que même des gars qui sont arrivés un petit peu plus tard, mais pas si récemment que ça, des Bilal et autres, on n'a pas ça, quoi. On en a très peu, quoi.
Moi, je peux partager une expérience qui était celle de mes débuts. C'est que moi, je pensais de fait que la BD, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé à faire mes premiers scénarios, puisque je n'ai pas du tout fait une formation, certains le savent ici, j'ai fait une formation d'école de commerce, donc rien à voir avec du dessin ou du scénario, je me suis rattrapé en me disant, bon, allez, je vais faire de la BD, le scénario, ça a l'air facile, je vais lire plein d'albums et puis je vais savoir faire un scénario. Ce qui est plus ou moins vrai, plus ou moins faux, mais finalement, en réalité, c'est la meilleure école, hein, c'est quand même de voir ce qui s'est fait. Donc voilà, moi, je suis fan de Valérian, je vois ça. Bah, naïvement, je me dis, c'est ça, hein. J'adore cette série, donc ça, c'est un bon scénario. Donc, j'avais même calculé sur un petit gabarit de mon document Word, j'avais pris le nombre de mots, j'avais regardé combien ça fait de lignes, et puis je me dis, bah, visiblement, 4 lignes, c'est OK. Là, il y a 8 cases, tout à l'heure, j'ai vu, il y en avait 9 ou 10. Donc, je m'étais dit, voilà mon gabarit. Je fais mon scénario, je ne connais pas de dessinateur, donc je fais un gabarit, c'est des pages de 10 cases, il y a des dialogues de 4 lignes, pas de problème, Mézières le fait. Je peux vous dire que je me suis fait accueillir bien comme il faut par les premiers dessinateurs avec qui j'ai bossé. Parce qu'eux, en gros, m'ont dit, mais ton truc, c'est trop bavard, ça marche pas et tout. Mais je leur dis, mais il y a Moebius, il y arrive, Mézières, il y arrive. Il me disait, oui, mais là, tu me parles de types qui ont un talent de malade qu'un jeune dessinateur n'a pas au début. Et au-delà même du talent, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Et le fait est que de moins en moins, on en a envie. À l'inverse, et ça, c'est... En fait, voilà, là, on se retrouve avec une dichotomie classique de la bande dessinée. Que Scott McCloud a très bien évoqué dans son bouquin L'art invisible, c'est de dire on a deux aspirations très très divergentes entre les deux collaborateurs d'une BD quand on est deux à bosser dessus. Là, je mets de côté le coloriste. C'est que le scénariste veut raconter des choses. Donc plus c'est dialogué, plus il y a d'événements, plus il y a de cases, plus il est content. Le dessinateur veut faire de très 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 beaux dessins. Je caricature, hein, bien sûr. Parce qu'il y a des dessinateurs qui veulent raconter, il y a des scénaristes qui aiment les belles images. Mais grosso modo, il y a une sorte de tropisme de part et d'autre. Et donc moi, effectivement, plus on me dit de réduire mes dialogues, de réduire mon nombre de cases, plus j'ai l'impression de raconter une histoire qui passe comme ça, quoi. 46 pages de BD, pour avoir un peu essayé de bosser dans l'audiovisuel, si on devait adapter 46 pages de BD en film, c'est 20 minutes. 20-25 minutes, quoi. Peut-être qu'une BD avec autant de dialogues est un peu plus longue. Mais la plupart des BD, c'est 20 minutes. Et moi, donc, on me demande, quand je fais un 46 pages classique franco-belge, de raconter un truc passionnant de bout en bout avec des personnages en 20 minutes. Un format de sitcom, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'humour se prêtait bien à la BD de cette époque. Et heureusement, ça a changé. Les formats ont changé. Les paginations ont changé. Je pense que quand on a fait, par exemple, avec mes camarades, le dernier Atlas, on a fait des albums de 200 pages pour justement pouvoir se permettre ça. Mais Christin était quelqu'un, et encore quelqu'un, qui adore... Alors là, voilà un exemple où il y a un très bel équilibre. Mais on sent qu'il y a eu un effort. D'ailleurs, je pense que les deux se bagarraient assez. Hein. Ce que j'en sais, ils se respectaient beaucoup. Mais Mézières disait justement, quand tu disais quelle est la réaction qu'on a en voyant la page où on l'ouvre, on fait « Oh merde ben !» Mézières lui disait ça. Il disait « Non, mais alors là, ça ne va pas être possible. » Donc, ils arrivaient à faire en sorte qu'il y ait des pages très dialoguées pour faire avancer l'intrigue. Et puis des pages qui, là, respirent un peu plus, où là, bon, bah, y a 5 cases, c'est de bonne guerre. Moi, je trouve qu'une page à 5 cases avec un beau décor, puis c'est hyper impressionnant en plus. Et là, on voit le travail des couleurs, il est sensationnel.
Oui, et puis le travail cinématographique, parce que là, il y a plein de points de vue. Celle de la case tout en bas à gauche est assez extraordinaire, ouais, parce que tout à coup, elle donne une échelle. On ne peut pas avoir une parfaite compréhension de l'échelle de la citadelle avec les autres cases, mais là, avec juste le pylône, c'est évident.
Et cette évidence, parce que là encore, je veux vraiment bien être compris quand on parle de gens plus virtuoses que Mézières, cette évidence-là, c'est une virtuosité. C'est-à-dire qu'arriver à faire comprendre quelque chose avec aussi peu de place... C'est un talent de fou. C'est vraiment un truc de génie. C'est juste que le génie de Mézières, il est... en fait, c'est un génie humble. Si je devais te dire un peu un résumé de ce que je ressens de Mézières, c'est que c'est un génie qui ne cherche pas à montrer qu'il est malin. Prenez en cinéma Nolan. Pour moi, c'est un génie qui veut nous montrer qu'il est génial. Ça finit par m'agacer un peu.
Tu veux dire qu'il est moins humble
que... Un tout petit peu moins humble. Je ne dis pas que Mézières ne savait pas ce qu'il valait, hein. Mais par contre, il n'était pas dans ce côté « regardez comme je suis en train de faire un truc de malade ». Par contre, il le faisait. Il faisait des trucs de malade.
Alors ça, c'est une planche. Je vais en discuter un peu parce que je trouve que c'est assez représentatif du type de découpage de Mézières. Il adorait... alors, notamment en ouverture d'histoire, et là c'est en fin d'histoire, mais il y en a à l'intérieur, il adorait placer des cases qui fassent absolument toute la largeur de la planche. Et au point où il pouvait faire des planches qui n'avaient que 3 ou 4 cases comme ça, panoramiques, allongées. Bon, là, elles sont à peu près de hauteur similaire, à part la première qui est un peu plus grande et la dernière qui est légèrement plus petite. Mais il a pu, par contre, séparer en... pratiquement deux tiers pour la première case strip, et puis ensuite en avoir deux plus petites. Et quelquefois, alors, sans forcément aller jusqu'au bord, là on a déjà un exemple avec la toute dernière. Ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant, notamment pour les vues de l'espace et pour les vues intérieures. Quand on est, il y avait Alain Resnais qui avait dit un jour quelque chose que j'avais trouvé vachement malin et qui va à l'encontre de ce qu'on imagine. Nous, on imagine toujours que si on fait du western, le mieux c'est d'avoir un écran large, et puis si on fait du drame intimiste au cinéma, du 4 tiers, enfin du 1,37, donc de l'académique, ça va très bien. Et lui, il disait non, on devrait faire le western, enfin tout ce qui est extérieur avec des cadres, ce qu'on appelle carrés, donc du 1,37, et par contre le panoramique, ça serait pour les intérieurs. Or, j'ai trouvé ça quand même un petit peu bizarre, voire limite con. Puis en fait, j'ai commencé à... Enfin, ça m'a poursuivi, cette idée. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais oui, il a raison, parce que finalement, à l'intérieur, il faut absolument qu'on voit le décor. Quand on regarde La Maison du Diable de Robert Wise, par exemple, qui est un film hyper panoramique, on est en format 2.5, donc en noir et blanc. Les cadres sont à tomber par terre. Si vous n'avez pas vu ou si vous voulez vous en rendre compte de nouveau, revoyez ce film, c'est hallucinant. Le film tourné en 1,37 n'aurait jamais fonctionné. Et c'est vrai que par contre, on peut très bien avoir des très grandes étendues en 1,37 et qui semblent très larges. On regarde Alexandre Nevsky d'Eisenstein, La bataille sur la glace, qui est pourtant en 1,37, elle fonctionne impeccablement. Là, à l'intérieur, on a des intérieurs, du coup, de vaisseaux. On le voit, par exemple, deuxième et quatrième case en partant du haut. Si on avait une case moins large, on n'aurait pas le quotidien, on n'aurait pas le vécu à l'intérieur de la cabine. En fait, on perdrait toute la dimension humaine. Et pas seulement mécanique, hein, pas seulement électronique, pas seulement appareillage, mais la dimension humaine de l'habitacle. Donc ce choix, en fait, qui est assez, qui est pas si courant en BD d'avoir autant de cases larges, est particulièrement pertinent par rapport à du space op. En plus, la première, on voit très très bien le vaisseau, il n'y a pas besoin que ce soit plus grand. Si on met une bulle, l'avant-dernière case, on a les deux personnages, la bulle au milieu, juste ce qu'il faut d'appareillage tout à gauche et tout à droite pour poursuivre la présentation du contexte, et ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment... ça serait dessiné autrement. De toute façon, je saurais que ça serait du découpage de Mézières.
Moi, ça me fait penser aussi à une autre thématique qu'on a peu abordée ici, c'est l'expérimentation à la fois narrative mais formelle de Mézières. Narrative parce qu'il a énormément mélangé de choses dans la science-fiction, je le disais, avec un côté ethnique qui était assez neuf à l'époque. Et moi, j'étais complètement fan de ça enfant, en me disant, mais comment on peut à ce point mélanger des choses qui sont si, si diverses. Mais il avait aussi une expérimentation formelle. Là, tu l'évoquais avec les tailles de plans. Je me rappelle d'un plan dans Les oiseaux du maître, qui est donc un des meilleurs, je trouve, Valérian, où des oiseaux rendent fous les esclaves du maître. Le maître, ça va être une espèce de méduse géante. Et quand le maître, à un moment donné, rentre dans la tête de ses esclaves, sa voix explose, quoi. C'est comme si la voix vraiment explosait. Et il se trouve que dans la page, la voix du maître est réellement représentée comme une explosion. Le phylactère se déploie dans plein de directions. Et un des pics de ce phylactère, un des pics de cette explosion, traverse la tête de Valérian. Et il est frappé comme par un rayon laser, en fait. Mais ce qui est fou...
c'est qu'on ne se dit pas, justement, on n'est pas en train de se dire « Waouh, belle performance !» Comme par exemple, moi, Druillet, il y a beaucoup de pages de Druillet que je vois vraiment comme un plaisir d'esthète. Je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment très très beau, mais ça me fait sortir de l'histoire. Dans le cas de Mézières ici, le fait que le phylactère passe à travers la tête de Valérian, enfant, ne m'a posé aucun problème. Je me suis dit, bah oui, la voix du maître lui rentre dans la tête, donc le phylactère lui rentre dans la tête, c'est complètement normal. Alors qu'en fait, c'était quand même hyper hyper audacieux, quoi. Et autre détail aussi, tu parlais des petits... une autre force très très grande pour moi de Mézières et qui est très présente dans les albums qui sont arrivés vers la fin, tout ce que j'appellerais le cycle autour de Métro Châtelet, direction Cassiopée. J'ai lu dans une des intégrales que Mézières venait de voir Star Wars et s'était dit en gros, oula, ils vont tous aller vers le space-op, ça n'a plus tellement d'intérêt là tout de suite, j'ai envie de remettre du réalisme dans la série. Donc il aurait demandé à Christin de dire, je veux un truc qui se passe à Paris. Parce que honnêtement, aucun dessinateur ne me demande en général, parce que le côté dessiner Paris ou les embouteillages, c'est chiant comme la mort. Les dessinateurs préfèrent que ça vive un peu, quoi. Oui, t'allais dire un truc.
En fait, sur les deux trois images précédentes, là, en fait, ça, et ce que tu me dis, enfin, ce que tu dis par rapport à Paris, moi, c'est vraiment l'image du voyageur immobile, quoi, en fait. Dire parce que c'est pas un Hugo Pratt qui a voyagé à travers le monde. Le fait qu'il y ait des titres sur Paris, le fait qu'il y ait vraiment une vision de Paris. Moi, je me rappelle que quand on a monté l'expo, par exemple, bon, je ne connaissais pas complètement sa vie, quoi, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'était vraiment un dessinateur dans sa tête, un voyageur dans sa tête, hein, vivant dans l'impasse du 13e, ou m'expliquant qu'il ne traversait pas parce que c'était l'autre arrondissement. Et je suis sûr que s'il n'y avait pas eu de cinéma dans son arrondissement, il n'aurait jamais vu Star Wars, quoi. Donc, c'est quand même... j'ai l'impression qu'il se nourrissait de tout, quoi, en fait, et de la...
Le grand voyage qu'il a fait, qui est connu, c'est qu'il est allé aux États-Unis. Il a été cow-boy pendant un temps là-bas parce que c'était son gros rêve.
Il a fait beaucoup de photographies aussi à ce moment-là, voilà. Mais il a continué après.
Mais comme il est arrivé, si j'en crois, il y a un très bon podcast qui est diffusé actuellement en Belgique par Thierry Belfroy autour des rapports entre la BD franco-belge et les États-Unis, qui est un rapport extrêmement proche parce qu'il y a une admiration folle de la franco-belgie pour les États-Unis et en réalité un pompage total par les États-Unis de la franco-belgie. Qui dit pas son nom, c'est juste ça. Mais donc il est allé un peu aux États-Unis, il a un peu fait le cow-boy là-bas, parce que c'était son gros rêve de faire du western. D'ailleurs, il y a sans doute quelque chose un peu parfois du western qui peut apparaître ça et là dans sa façon de penser les espaces. Mais ce qui me fascine, c'est que si on voit certains détails, on pourrait s'arrêter sur n'importe quoi, n'importe laquelle de ces images, il y a un sens du détail et de la véracité, y compris d'objets qui... Par exemple, tout le décor existe. On sent qu'il a pensé au câble, il a pensé au tuyau, il a pensé au trottoir, il sait à quoi ressemblent les immeubles qui sont derrière. Je pense qu'effectivement, c'est un voyageur immobile, mais très bien documenté. Et quand il fait un objet, on y croit.
Alors, clairement, ça, il me l'avait dit, il a des tonnes de documentation. Il en bouffait, notamment les magazines de géographie des années 50, 60, 70. Et il en remplissait... la cave après.
Et ce qui est hyper important, à mon sens, et là je parle en termes de scénariste, enfin c'est lié au dessin, mais c'est que le problème de la science-fiction ou du fantastique en général, il est souvent que ça attire des gens qui n'aiment pas le quotidien, parce que si on est dessinateur de fantastique, c'est justement parce qu'on a envie de sortir du quotidien. Et que du coup, quand on demande à un dessinateur de fantastique de faire les dessins de la partie normale, la partie où il n'y a pas encore de fantastique, genre un château en Écosse, comme le fait très bien Mézières dans Les Spectres d'Inverloch, souvent, je ne dis pas que c'est torché, mais il y a moins d'envie, quoi. Par exemple, le musée Pompidou, qui est très très bien dessiné dans justement Métro Châtelet, moi, quand j'ai vu ces pages avec le centre Pompidou, je me suis dit, mais j'ai vu cet endroit, j'ai visité Paris, je sais ce que c'est exactement ça. Et d'un seul coup, au milieu de ce truc, il y a un oiseau électrique qui fait tout péter. Il y a une scène d'anthologie à ce moment-là où on voit... En plus, c'est marrant, parce que ça mélange bien tous les aspects de Valérian, parce que Valérian voit l'oiseau qui est encore sous une forme normale, qui est avec une pochetronne qui est dans un coin en train d'alpaguer les gens. « Ah, j'ai trouvé ce truc !» En fait, l'oiseau, c'est un oiseau super spécifique. Lui, il se rue dessus, il le chope et l'oiseau se transforme en oiseau géant. Donc, il est traîné derrière. Donc ça, c'est très Valérian, quoi. Il est emporté par les choses. Et l'oiseau remonte le fameux escalier en verre de Pompidou et il pète toutes les vitres. Et moi, j'avais vraiment l'impression là que ce n'était pas Star Wars qui se passe à l'autre bout de la galaxie. Ça se passe à Paris, que je ne connaissais pas si bien, mais que j'avais visité. C'était la grande ville, mais quand même, je connaissais. Et donc, je connais cet endroit. et c'est dans une BD que je suis en train de lire. Ce truc-là, moi, c'était une explosion mentale. Je me suis dit, c'est en train de me parler de ce que je vis, moi, et pas d'un truc qui se passe à l'autre bout d'eux. Et c'est hyper important pour moi, pour faire vivre la science-fiction ou faire vivre le fantastique, qu'on croit d'abord à la réalité des choses. Et la force, par exemple, des spectres d'Inverloch, c'est que quand il y a un gazon anglais, on voit presque qu'il a pensé le gazon anglais en mode, oui, c'est vraiment fait comme ça, c'est hyper beau, c'est hyper net. Et d'ailleurs, après, il y a un vaisseau se plante dessus.
C'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est déjà utilisé dans le scénario de Christin.
C'est ça. Ça
parce qu'il y a l'anglais qui est extrêmement, qui est terrassé par le fait que son gazon a été pourri par
vaisseau spatial.
mais qui ne dit rien, qui souffre en silence parce qu'il est anglais. Ça, c'est typiquement le genre de planche que je trouve assez extraordinaire. Mézières a assez régulièrement utilisé finalement des éléments raccords d'une case à l'autre. Alors là, c'est carrément toute la planche qui est comme ça.
On peut préciser l'élément raccord dans le sens où si on fait abstraction de ce qu'on appelle parfois les gouttières, donc le trait entre deux cases ou espace intériconique, si on veut faire son Christophe Nolan. Là.
Donc Marc-Antoine Mathieu a dit ça hier. Hein? Marc-Antoine Mathieu parlait d'espace intériconique.
Oui, il a le droit aussi parce qu'il peut se la péter aussi, Marc-Antoine Mathieu. Il y a des gens que je pardonne. Mais ça veut dire que si vous enlevez les espaces intériconiques ou les gouttières, c'est une seule et même case qui se poursuit. On voit bien que la vague, c'est la même. Par contre, la convention mentale qui est proposée au lecteur, c'est qu'en fait, les dialogues ne se passent pas au même moment. Les dialogues sont espacés dans la durée. Donc ça, là, on est vraiment dans un truc qui est spécifiquement lié à la bande dessinée, ouais, que le cinéma ne peut pas faire.
Alors ça, ceci dit, on avait déjà ce procédé qui avait été utilisé dans Tintin au Tibet.
Oui, je ne dis pas qu'il l'a inventé, ouais, hein, par contre. Oui.
Au moment où Charquet dit « Et toi, si ami de toi encore vivant, où le trouver ?» Il y a trois cases comme ça sur un strip où on a en fait le décor qui évolue sur les trois cases. Et on a le groupe Charquet, Tintin, Haddock dans la première case, dans la seconde, bien centré à chaque fois, et dans la troisième, donc en fait ils devraient bouger normalement, mais en fait non, ils sont là en tant que représentants cadrés, et le décor dans sa globalité est exprimé sur trois temporalités. C'est comme s'il y avait une sorte de panoramique tout en restant cadré sur les trois personnages. Ça donne un effet étonnant, mais c'est purement BD. Ça, j'adore ça, parce que finalement quand on travaille dans avec un média, toute l'idée, dans l'idéal, c'est d'exploiter au maximum les qualités spécifiques du média, sinon c'est un peu dommage. Donc, là, on a vraiment de l'essence de la BD dans cette planche. Comme il n'y a que 7 minutes, je pense qu'on pourrait passer le micro. Si vous êtes d'accord.
Vous n'êtes pas trop endormi du mardi matin, après avoir accueilli des enfants hier, parce que c'était Halloween. Oui, il y a un micro qui va vous être passé.
Bonjour. Merci, pour l'instant c'est super intéressant. Moi je voulais juste évoquer un album de Valérian que j'aimais beaucoup. Celui, je ne me rappelle plus le titre, où il faut repeupler une planète.
C'est les héros de l'équinoxe peut-être ?
Oui, c'est ça, ouais. Et ce que j'aime beaucoup, il y a un mélange, c'est une BD pour moi politique, parce qu'on a l'évolution de ce que peut devenir une terre ou un régime totalitaire. Et en même temps, il y a un mélange d'humour, puisqu'il y a Valérian qui semble un petit peu minable, entre guillemets, par rapport aux autres. Et il y a quelque chose à la fois qui est politique, sociale, fort. Et en même temps, avec cet humour, cette dérision, je trouve que les deux se marient très bien. Et c'est pour ça que j'aime bien ce...
Alors, je suis hyper d'accord avec vous. Moi, c'est un album qui me touche beaucoup.
Je reviens sur mon problème avec l'humour.
C'est ça. Si on n'aime pas l'humour, effectivement. Ce que je trouve hyper touchant là-dedans, c'est que... je vais un peu spoiler l'album pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais... Donc, en gros, il y a une espèce de grand combat avec des héros qui doivent se battre. Et puis, celui qui va l'emporter sera le géniteur pour repeupler une planète. Quoi. Parce que on est quand même dans un truc, au départ, si c'était dit par n'importe qui d'autre, je lis pas l'album. Hein, mais là, c'est Christin, Mézières, je me dis, bon, allez, OK. Et puis, les différents grands héros sont quand même un peu des caricatures. Il y en a un de différents modèles politiques. Il y a des modèles fascisants, modèles communistes, modèles écolo, New Age, un peu trop poussés. Donc, c'est assez bien... Alors, ça pourrait flirter avec la caricature facile, ça l'est un peu. Donc là, c'est peut-être, en termes politiques, il est parfois un peu facile par rapport à d'autres albums que j'ai trouvé plus subtils, mais il marche très bien. Et Valérian, il subit, et à la fin, on pose la question à tous ceux qui ont survécu aux épreuves. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez pour cette planète, pour l'avenir de la planète, quoi. Et donc les trois super-héros qui sont passés avant, ils disent exactement ce qu'ils veulent et ça laisse pas de place à grand-chose en fait. Puis Valérian, il est tellement stone, il en a tellement pris plein la gueule qu'il dit genre, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi, mais peut-être qu'il faudrait demander aux habitants, quoi. Et c'est lui qui est choisi par l'espèce de super goddess qui est à la fin, qui va du coup le choisir en disant justement, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas trop voulu diriger tout, quoi. Et ça, c'est très, très avant-gardiste. Maintenant que MeToo est passé par là et qu'on est en train d'essayer d'évoquer une masculinité différente, cette masculinité d'un héros qui finalement y arrive, il a quand même fait quelque chose. Mais à la fin, il dit, vous savez, je ne suis peut-être pas à la hauteur, quoi. C'était hyper nouveau. Et pour un jeune ado pas bien dans sa peau, c'était hyper important de le lire. De dire, ah tiens, voilà un héros qui est quand même un héros. Mais en même temps, on ne lui demande pas d'être plus que ce qu'il est, quoi. Et moi, ça avait été très émouvant. Puis après, en plus, c'est assez drôle parce qu'après, il y a des millions de petits enfants faits par Valérian qui déboulent dans la planète et Laureline qui arrive un peu vénère. Mais en même temps, elle est vénère, mais elle est pas vraiment jalouse. Elle fait genre, ah ouais, bah, j'en connais un qui s'est bien marré pendant ses aventures. Fin de l'histoire, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tout ça. Je trouve ça extrêmement en avance sur son temps. J'adore.
Voilà, l'influence du western aussi chez Mézières, parce qu'il adorait le western, quoi. Il adorait monter et il adorait le western.
Je crois qu'il y avait une autre question là-bas.
J'avais comment ? Il avait été évoqué l'idée de la mise en page où on avait des cases avec beaucoup d'explications. Et derrière,
justement celle-là par exemple,
où les cases étaient beaucoup plus espacées et moins explicatives. Vous aviez évoqué aussi du coup cette partie où vous êtes inspiré, beaucoup se sont inspirés des œuvres comme Valérian ou d'autres de cette époque. Mais qu'en copiant cet aspect, vous aviez été mal reçu. Qu'est-ce que vous conseillerez en fait à, du coup, par rapport à des générations, les nouvelles générations et les générations d'après ? Là, je parle, on va dire, 90-2000. Est-ce que c'est encore possible pour ces générations-là de s'inspirer des œuvres telles que celles pour Valérian ou Tintin ou quoi d'autre, où ce sera considéré du coup comme trop copié par rapport à... Est-ce que ce sera réservé à des gens comme eux qui ont marqué l'histoire et que derrière... Je me suis perdu.
Est-ce que vous demandez s'ils vont encore être copiés ou utilisés ou est-ce qu'ils peuvent encore servir un peu maintenant aux nouvelles générations ?
Oui, c'est ça.
Alors... Moi, je pense que oui, mais simplement, maintenant, les nouvelles générations sont multi-inspirées de tellement d'autres choses aussi que de toute façon, ça va être compliqué de... Enfin, remettons dans le contexte des années 70. Moi, les albums de BD qui sortent à l'époque, il y en avait 500 par an. Maintenant, il y en a 5000. Et je ne parle même pas des mangas, je ne parle même pas des films, des Netflix et compagnie. Donc... Je pense que ça reste tout aussi pertinent, ce type d'œuvre, voire même ça a extrêmement bien traversé. Moi, je les ai là encore relus pour cette conférence. Ça m'a passionné de me replonger dedans. Mais c'est ça au milieu de tellement d'autres choses qui existent et Internet facilite cet accès que maintenant, la question qui se pose, presque la difficulté qui se pose pour un jeune auteur, c'est le tri de qu'est-ce qu'il veut vraiment conserver comme étant inspirant. Et c'est pour ça que je dis à des étudiants et étudiantes, votre boussole, c'est vous, quoi. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment raconter. Et ensuite, vous irez chercher des choses qui vous inspirent pour raconter le mieux possible ce que vous avez raconté. Mais parler de vous et parler de quelque chose qui vous concerne directement. Par exemple, un auteur qui me dit « J'adore le manga, je vais faire un récit qui se passe à Tokyo. » Je dis « Méfiance, parce que tu ne connais pas Tokyo aussi bien qu'un mangaka. » Par contre, inspire-toi du manga et fais un récit qui se passe à Nantes, à Rezé. Oui, ça m'intéressera plus. Parce que tu vas parler, si tu es de Rezé, tu vas parler d'un truc que tu connais vraiment. Peut-être qu'en étant dans le 13e, Mézières a parlé mieux de science-fiction que quelqu'un qui aurait été dans l'espace.
Moi, je te dirais volontiers que ta question, elle me fait un petit peu... pour moi, elle évoque un petit peu la question de trouver le style avant de dessiner, en fait. Dont parlait Fabien tout à l'heure. Ça ne sert à rien, en fait, de se poser ce type de question, excuse-moi. Je pense qu'effectivement, moi, le patrimoine culturel type Mézières, Bilal, Druillet, tout ça, il faut le connaître pour que ce soit, admettons, hein, si je devais te parler comme un élève, ton socle de départ. Mais après, effectivement, toutes tes influences actuelles ne sont pas celles de Mézières. Donc, le style que tu vas en découler va aussi venir de ça. Et bah, travaille, je dirais à un jeune qui veut travailler là-dedans en s'inspirant ou pas, quel que soit ce qui va se passer, il va y avoir une transmission, mais aussi par plein d'autres médias aujourd'hui. Quoi. Mézières, il n'était pas sur TikTok. Donc forcément, ce que tu en feras, ce sera différent. Quoi.
Ce qui est le plus inspirant de Mézières, pour moi, ce n'est pas tant son style, donc, dont on a dit que ce n'était pas tout à fait un style, c'est la méthode. L'ouverture d'esprit, sans être forcément déplacé, mais l'ouverture d'esprit au monde, par exemple, à des statues, une statuaire africaine à un moment donné, à des décorations hindoues à un autre moment, à des peintures corporelles, tout ça, de le mixer, ça c'est pour moi, cette ouverture d'esprit, c'est vraiment la règle d'or quand on veut essayer d'écrire ou de s'ouvrir. Et pour moi, Mézières en a été un des principaux héros de cette époque.
Moi, juste un mot sur l'adaptation, parce que tu citais Villeneuve tout à l'heure, on n'a pas cité Besson. Besson a servi quand même.
Alors, on le faisait exprès. Hein.
Oui, non, mais je sais, mais je veux en parler parce qu'en fait, au départ, effectivement, on a crié au pillage, on est bien d'accord. Après, il a quand même fait amende honorable et il a quand même servi à faire découvrir l'univers de Mézières à deux jeunes générations qui n'auraient pas ouvert un bouquin. Alors que, effectivement, enfin, là où peut-être on se rejoint, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, si Nolan s'empare de Mézières, il va enlever toutes les couleurs. Enfin, entre autres. Nolan, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il a été payé par la machine américaine pour enlever l'intérêt de toutes les œuvres qu'il touche.
Non, mais au demeurant, je trouve qu'il est génial. Moi, j'ai été un peu dur avec Nolan. Je le trouve génial, mais je trouve qu'il faudrait qu'il serait d'autant plus génial s'il avait l'humilité d'un Mézières et qu'il ne soit pas en train de constamment dire « Regardez comment je suis génial avec un concept qui est à la fin. »
Tu veux dire qu'il avait lu les œuvres qu'il adaptait ?
Mais je crois qu'il s'en fout même, effectivement, de l'œuvre d'origine, mais... Non, c'est un autre débat. D'ailleurs, c'est la conférence suivante. C'est donc Nolan.
Voilà. Bon compte. En tout cas, nous concernant, on est arrivé au terme. Donc, merci beaucoup pour avoir été présent.
Oui, merci de votre venue.